Nous lirons tout d'abord dans le livre de Jérémie, le prophète, au chapitre 1, les versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Pour notre seconde lecture, nous prendrons la deuxième épître aux Éphésiens, du chapitre du verset 1 au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes ainsi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et enfin, nous prendrons l'évangile de Matthieu au chapitre 2, chapitre 13, versets 13 à 21. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Nous prenons maintenant le cantique 240, 1, 2 et 3. Assemblée qui chante. Vous êtes vraiment une image du royaume, frères et sœurs. En communion d'esprit avec nos amis britanniques, nous allons ensemble écouter la prière d'Anselme de Cantorbéry. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai, puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas. Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle cette lumière et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera? Qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-toi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-moi. Apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant, je te trouve, et que je t'aime en te trouvant.
Très bel orgue.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Frères et sœurs, je voudrais vous parler de ce dont on ne parle pas. Je voudrais vous parler de ce dont on ne parle plus. Je voudrais vous parler de la grâce et du salut. Je voudrais vous parler de la violence et de l'insolence de la grâce, de son caractère irrémissible, du caractère inadmissible de ce mystère de l'élection dont je ne sais quel gilet jaune me disait l'autre jour qu'il était profondément injuste. Et pour aggraver encore ma faute envers vous, je voudrais vous parler de la prédestination, cet animal étrange, ce chibolette des huguenots d'autrefois. Mais comme je ne suis ni pasteur, ni même prédicateur laïque, je voudrais me contenter de répondre ici à votre invitation. Nous appelons cela, je crois, le sacerdoce universel, et j'y suis profondément attaché. Je vous parlerai donc en historien et en universitaire, et non pas en théologien ou en exégète, spécialiste des textes sacrés. Dès lors, ce texte de Jérémie, je m'interrogerai sur lui d'abord en aval et non pas en amont, en termes d'écho et de réception. Quel sens peut revêtir la littérature prophétique juive dans la conscience chrétienne? Quelle a été sa place dans la réforme protestante? Quoi de plus troublant, quoi de plus injuste Quoi de plus inacceptable que cette idée d'un Dieu qui librement élit et qui sauve, qu'il sauve sans qu'il faille invoquer quelque juste rétribution, quelque mérite, quelque récompense. Ce message qui fut celui de la Réforme, ce message ponctue l'annonce libératrice de Martin Luther, avant même les 95 thèses, lorsqu'il a l'intuition dès 1515, l'année de Marignan évidemment, et donc l'année même de Marignan, Luther a l'intuition fondamentale que le fidèle est à la fois juste et pécheur, simul justus et peccator, et donc aucune église, fut-elle sainte, fut-elle parfaite, fut-elle vraiment l'église, fut-elle unique, catholique, universelle et inspirée, aucune église donc ne saurait garantir à quiconque l'accès au royaume. L'humanité parvint idéalement ainsi à se libérer de cet au-delà peuplé d'âmes souffrantes, d'âmes en peine, d'âmes torturées par des diables que la riche imagination médiévale nous décrit avec force détail. Cette église de la peur, cette église de la crainte, cette église impitoyable qui condamne et qui foudroie, a-t-elle encore un sens pour nous, ou bien a-t-elle, je l'espère, totalement disparu? Comment le salut a-t-il pu se transformer en instrument de mort, de terreur et de domination? Comment est-on passé de l'esprit de l'Évangile, celui des béatitudes, à ces horreurs que nous connaissons tous? Nous sommes tous, à un degré ou un autre, des héritiers de Luther. C'est là que l'existence d'une Église protestante unie, regroupant luthériens et réformés, me paraît, personnellement, une excellente chose. Ouvrons nos Bibles. Le prophète Jérémie est présenté comme l'auteur de trois textes distincts, le livre de Jérémie, que nous avons lu le début, les remarquables lamentations, et là je me tourne évidemment vers notre organiste, qui se sont prêtés à d'extraordinaires élaborations musicales, chez Thomas Tallis, encore un Anglais, pardonnez-moi, Marc-Antoine Charpentier et Couperin, avec les fabuleuses leçons des ténèbres que nous connaissons tous. Il existe enfin un troisième texte, une lettre de Jérémie, l'un des livres deutérocanoniques présents dans la Septante et non pas dans la Bible hébraïque. Il se trouve à ce titre dans la Tome, mais pas dans la version seconde, comme vous le savez, la plus commune dans nos églises de la Réforme de langue française. Le texte de Jérémie s'inscrit dans un temps troublé, marqué par la dévastation de Jérusalem en 587 avant notre ère. On y trouve une référence explicite à la déportation du peuple et à son retour avant la conversion des nations. Mais je souhaiterais me concentrer ici sur le début de ce texte uniquement. L'Alsacien André Néer a écrit sur Jérémie de belles et fortes pages il y a une soixantaine d'années. Au premier contact avec le livre de Jérémie, dit-il, je le cite, « on a l'impression de tenir entre les mains non pas un livre, c'est-à-dire le produit d'une réflexion mûre et concertée, mais un document qui fait encore partie de l'histoire qu'il raconte et qui porte les traces des circonstances dramatiques dans lesquelles il a été rédigé. » Il poursuivait, donc je cite toujours André Néer, « le livre de Jérémie est ainsi doublement inachevé, inachevé dans son inventaire des paroles de Jérémie, inachevé dans le sens qu'il voulait donner à cet inventaire. L'inachèvement, tel fut pour moi l'une des clés d'interprétation de l'histoire. En tout cas, c'est l'une des clés que j'ai utilisées pour rédiger mon livre sur Calvin en parlant de portrait inachevé. Je me demanderai maintenant si l'inachèvement n'est pas l'une des clés de l'expérience réformatrice. Si Dieu s'est bien retiré du monde, comme y insiste la mystique juive avec le Tzimtzum, l'expérience religieuse est d'abord celle d'un vide, ou mieux encore d'une béance. Face au trop-plein de l'attente messianique ou eschatologique, il faut poser malheureusement le trop vide de notre époque. L'apôtre Paul, inlassablement, nous accompagne. Il nous accompagne, nous protestants, plus que les autres depuis 5 siècles. Il nous accompagne pour le meilleur et souvent, hélas aussi, Béatrice, pour le pire. Il faut bien le dire. Et du reste, ce Paul n'est souvent pas l'apôtre lui-même, mais celui du paulinisme. L'épître aux Éphésiens n'est probablement elle-même pas de Paul, mais de son entourage. Alors, moi je vais avoir une réaction d'historien. Dans le fond, oui, peu importe. Peu importe que le texte soit de Paul ou non, parce que si effectivement il vient d'un entourage, cela permet de saisir dans la variation même d'une pensée, une pensée, ou mieux encore, une doxa qui se cherche et qui s'élabore. Alors, quelle est cette doxa ? Je reprends le texte en le paraphrasant. « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. » Vous savez que ce terme de prédestination va avoir évidemment une importance considérable au XVIe siècle et ultérieurement. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, etc., etc. Et nous sommes ainsi devenus héritiers, ayant été prédestinés à nouveau, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes maintenant mieux en mesure de comprendre ce qu'est la prédestination. Un nouveau débat, pour nous sans doute superflu, s'ajoute au premier dans le calvinisme ultérieur, en particulier aux Pays-Bas. Qu'en situer, on se pose la question, le terrible décret dans les temps de l'éternité ? Avant ou après la chute ? C'est une question qui, nous-mêmes, ne nous agite pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais effectivement, ça fait partie de cette histoire de la théologie qui est quand même pleine d'enseignements, même si, effectivement, on n'en saisit plus tout, pardonnez-moi, je me tourne vers Laurent Gagnebin en parlant. Laurent, je ne te regarde pas. Oui, c'est vrai que nous avons, quand nous lisons ces débats, je pense tous les débats qui ont lieu aux Pays-Bas au XVIIe siècle, je me remets devant le micro, quand nous lisons ces débats, nous avons parfois du mal à les suivre. La prédestination, je voudrais dire maintenant, si on n'entre pas dans ce genre de détails, peut-être superflu, en tout cas historiquement daté, la prédestination, c'est d'abord, et ça c'est mon hypothèse ici devant vous, un discours de refondation. Il s'agit de refonder chez Paul, comme ultérieurement chez Calvin ou Théodore de Bèze. Il s'agit pour l'apôtre Paul et ceux qui le suivent et s'en inspirent de refonder le nouvel Israël en créant l'Église. Et je dirais qu'il s'agira pareillement pour Luther, Calvin et les autres de refonder l'Église sur les débris du christianisme historique, du christianisme médiéval, de cette Église en laquelle ils ne croient plus. C'est toujours un peu comme la dissuasion nucléaire, cher au général de Gaulle, un défi du faible au fort. Il faut être bien prédestiné quand on est minoritaire pour avoir l'arrogance de croire que seul contre tous, on a encore raison. Or, c'est précisément ce que vont vivre ces premiers réformateurs. C'est pour cela, et non en raison de quelque odieuse perversité mentale, comme on le dit parfois, que la doctrine de la prédestination a un tel écho dans les milieux réformés, ou un peu plus tard, port-royaliste, je fais une référence aux jansénistes, vous savez que mon épouse est spécialiste du jansénisme, au tournant des XVIe-XVIIe siècles. La prédestination est en fait la révolution copernicienne de la théologie. Elle replace au centre la foi, comme la révolution copernicienne nous apprend que la Terre, évidemment, n'est pas au centre du monde, mais que c'est bien le Soleil autour duquel elle gravite. Cette expression de révolution copernicienne, vous la trouvez, les philosophes parmi vous, innombrables, évidemment, chez Kant, dans la critique de la raison pure, comme chez Freud aussi, qui reprend cette image. Mais je crois qu'on peut l'utiliser aussi à propos de la réforme. La question, c'est toujours de se savoir ce que l'on met au centre. Et évidemment, là, je vous réponds, c'est Jésus-Christ que l'on met au centre avec la réforme, et non plus l'Église. Et l'Église est appelée à se tenir tranquille et à graviter paisiblement autour de son centre, au lieu de se mettre au centre elle-même, comme elle a eu tendance à le faire pendant les siècles. Et vous savez que, effectivement, dans l'institution de la religion chrétienne de ce brave Calvin, on va trouver ce théorème qui nous fait tous un peu peur, mais quand même, il faut le lire, il faut y réfléchir. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu, par lequel il est déterminé ce qu'il voulait faire de chaque être humain. Car Dieu ne les a pas créés tous dans les mêmes conditions, mais il ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. Ainsi, selon la fin pour laquelle est créé l'être humain, nous disons que celui-ci est prédestiné à la mort ou à la vie. Ce sont des paroles implacables, ce sont des paroles terribles. Et le Dieu de Calvin nous est devenu en partie incompréhensible parce qu'il éprouve pour ses enfants une passion exclusive, jalouse, à la limite insensée. Dieu réprouve parce qu'il aime. Aimerait-il autant s'il ne réprouvait pas ? Le sobre Calvin, Calvin le docte, le discret, le vénérable, aurait-il donc été un passionné ? La doctrine de la prédestination se prête évidemment à toute une rhétorique baroque. On mentionnera les positions de Théodore de Bèze. Dieu choisit ceux qu'il sauve avant même la chute d'Adam. Ces raisonnements sont devenus incompréhensibles à une majorité d'entre nous. Pourquoi prétendre que les jeux étaient faits de très longue date et que Dieu connaissait d'avance qui serait élu par lui et qui serait rejeté? Nous jugerions volontiers et outrancières ces audaces de théologiens prêts à décrire ce qu'Calvin avant même l'origine du monde. Dieu a mystérieusement décrété que certains hommes seraient sauvés et d'autres promis à la damnation éternelle. Pourtant, il y a là les éléments d'un paradoxe. Effrayante en soi, cette doctrine sans appel se révèle en réalité profondément rassurante pour ceux qui y adhèrent au XVIe et au XVIIe siècle. Selon Théodore de Bèze, le fait d'avoir la foi est la marque même de l'élection par Dieu. Croire, c'est déjà être sauvé. La double prédestination est le meilleur remède contre l'angoisse. Elle apporte son réconfort aux élus. Dans une perspective essentiellement pratique, elle vise à encourager les fidèles à persévérer dans leur foi, à persévérer dans leur résistance. La prédestination, du moins dans sa version réformée du XVIe siècle, ne relève pas tant à ce titre d'une pastorale de la peur, selon l'excellente formule de Jean de Lumeau, qu'à l'inverse d'une volonté d'apaisement face à l'angoisse de la vie et de la mort. Dans la stricte lignée de Calvin, elle revêt une immense portée pédagogique pour l'encadrement des fidèles, à l'instar de ce diagramme tracé par Théodore de Bèze, la tabula predestinationis, ou table de la prédestination, qui laisse apparaître, c'est tout à fait extraordinaire, sur deux colonnes, le parcours des élus et celui des réprouvés. La célébration de la Sainte-Cène joue un rôle comparable dans cette économie du salut. Elle repose, nous dit l'historien Bernard Roussel, sur une tension psychologique particulière. Elle apaise une angoisse en même temps qu'elle l'entretient. Et je crois qu'on a effectivement ces deux temps dans la psychologie et dans la dogmatique des XVIe, XVIIe siècles, à la fois l'angoisse et en même temps, évidemment, le soulagement de cette angoisse. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce qu'écrit Théodore de Bèze dans sa Confession de la foi chrétienne, publiée en français quelques années avant la disparition de Calvin. Ce texte de Théodore de Bèze a été rédigé initialement par Bèze à l'attention de son vieux père, le pauvre, qui était resté catholique. Écoutez, on comprend la tristesse de Théodore. Et cet ouvrage offre une synthèse facilement disponible du calvinisme doctrinal à la veille de la disparition du réformateur. La foi, nous dit Théodore de Bèze, n'est pas autre chose que ce par quoi nous sommes assurés que la vie éternelle nous appartient. Vous voyez, c'est bien ce que je vous avais dit précédemment. D'autant que devant la fondation du monde, Dieu nous a destinés à posséder par Christ un si grand salut et gloire tant excellente. Et Bèze d'ajouter, tout ce que nous avons dit de la foi et de ses effets serait inutile si nous n'ajoutions ce point de l'élection éternelle comme le seul fondement et appui de toute l'assurance des chrétiens. L'on a considéré à tort que cette doctrine de la prédestination était propre à l'enseignement de Calvin, Théodore de Bèze se contentant de systématiser la doctrine pour lui donner effectivement la forme la plus systématique. En réalité, l'angoisse de la prédestination, beaucoup plus d'ailleurs l'angoisse que le sentiment de réconfort qu'elle peut procurer, l'angoisse de la prédestination est commune à l'ensemble de la civilisation chrétienne au XVIe, XVIIe siècle. Ça, c'est une chose que l'on ne dit pas souvent, mais que moi, je tiens à vous dire, et que j'ai écrite dans un certain nombre de mes ouvrages. Effectivement, la prédestination, ça n'est pas uniquement Calvin, ça n'est pas uniquement le protestantisme non plus, mais la prédestination, vous l'avez éminemment dans l'ensemble du christianisme, y compris chez les catholiques. Ni saint Augustin, évidemment, ni le catholicisme du Concile de Trente, le catholicisme tridentin, n'identifient évidemment les catégories calvinistes dégagées par Théodore de Bèze, la double prédestination, mais la prédestination en tant que telle se trouve, y compris dans le catholicisme. Et le Concile de Trente, ce que l'on ne sait pas non plus, souvent on oublie de le dire, ne fait pas disparaître cette appréhension, bien au contraire. Le Concile de Trente condamne comme doctrine erronée, écoutez bien, la justification par la foi seule des protestants, mais si vous lisez le décret jusqu'au bout, il vous réserve quelques surprises. Tout en maintenant le libre arbitre contre Luther et son serf arbitre, la doctrine catholique n'en insiste pas moins dans la lignée augustinienne sur la corruption des fils d'Adam, devenus totalement esclaves du péché. De même, il est clairement affirmé par le Concile de Trente que si le Christ est bien mort pour tous les hommes, tous ne reçoivent pas le bienfait de sa mort. Cette prédestination au salut est clairement énoncée par les pères du Concile. Et on a effectivement à ce moment-là un développement tout à fait extraordinaire. On doit se garder, nous dit les pères du Concile, d'une présomption téméraire concernant la prédestination. Quelle est cette présomption? Eh bien, le reste du texte l'explique. Personne non plus, aussi longtemps qu'il vit dans la condition mortelle, ne doit présumer tellement du mystère caché de la prédestination divine qu'il déclare avec certitude qu'il est absolument du nombre des prédestinés. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes sauvé, en d'autres termes. Comme s'il était vrai qu'une fois justifié, ou bien il ne puisse plus pécher, ou bien s'il venait à pécher, ils doivent se promettre une repentance certaine. Car à moins d'une révélation spéciale, on ne peut savoir ce que Dieu s'est choisi. Alors, ce qui est très clair ici, c'est qu'effectivement, entre la prédestination catholique et la prédestination protestante, qui vous assure au moins de votre salut, eh bien, il vaut mieux la prédestination calviniste. Merci.